les cas quotidiens de la COVID-19, les chiffres qui viennent tout juste d'être publiés. 864 nouveaux cas pour aujourd'hui. Donc, on est encore sur la même espèce de tendance. 7 décès supplémentaires, malheureusement. Est-ce que c'est en Angleterre hier où ça a été première journée sans décès en Grande-Bretagne. Donc ici, c'est 7 décès qui sont confirmés aujourd'hui.
Je pense que c'est juste à Londres, par exemple.
C'est juste à Londres? Ouais, ah, OK. Ouais. Qui est quand même une ville de 10-12 millions d'habitants quand même, Londres. Et pour ce qui est des hospitalisations, c'est plus 10. Donc, 487 personnes actuellement qui sont hospitalisées pour ça au Québec. Hausse de 10. Donc, ça va un peu à l'envers de la tendance. Depuis plusieurs jours, il y avait des baisses. Donc, on revient à plus 10 aujourd'hui. Grosse nouvelle hier, Jonathan, cette nouvelle concernant l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Ouais. Vous savez que c'est un vaccin où il y a eu des cas de complications qui ont été répertoriés. Ça reste quand même très, très peu de cas par rapport au grand nombre de personnes qui ont reçu ce vaccin-là. Et ce qu'on a appris hier, c'est qu'au Québec, on allait aussi suspendre, au Canada, en fait, on allait suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour les 55 ans et moins. Ce que j'en comprends, c'est que le système immunitaire des 55 ans et moins a peut-être une réaction différente, ce qui cause plus de risques de bouchons, de caillots, de thrombose, si vous voulez. Donc, ça serait l'explication derrière ça pour comprendre ce qui se passe. Très, très content de parler avec la microbiologiste, également infectiologue au CHU de Sainte-Justine, mais aussi présidente du Comité consultatif national sur l'immunisation, la docteure Caroline Couache qui est au bout du fil. Docteur Couache, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, vous-même.
Ça va, ça va.
Peut-être nous expliquer d'abord, docteur Couache, c'est quoi là? En quoi ça consiste exactement, ces effets secondaires-là, ces complications-là qu'on reproche, entre guillemets, au vaccin AstraZeneca chez les patients plus jeunes?
Oui, en fait, ce qu'on voit, ce sont des complications de thrombose, donc des caillots, mais associés avec un décompte de plaquettes bas. Ce qu'on comprend de ce phénomène-là, c'est que certaines personnes, puis le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'identifier qui à l'avance, certaines personnes, donc très rarement, là, pourront développer des auto-anticorps contre nos propres plaquettes. Et à ce moment-là, les plaquettes deviennent actives et décident de se coller les unes aux autres pour former un caillot. Et c'est pour ça qu'on voit aussi une baisse du nombre de plaquettes en même temps. Mais ces complications-là ont été vues jusqu'à maintenant chez les personnes de moins de 55 ans. Jusqu'à maintenant, surtout des femmes, mais peut-être parce que c'était des femmes qui étaient davantage exposées aussi au vaccin, vaccinées parce que on a vacciné d'abord les travailleurs de la santé là, en Europe. Et donc, comme chez nous, les travailleurs de la santé sont surtout des femmes. Mais donc, c'est vraiment des caillots qui se retrouvent à des endroits pas habituels. Là. C'est pas l'embolie pulmonaire, puis c'est pas la thrombose veineuse profonde là, quand notre mollet se met à enfler. Ce sont des caillots au niveau des petits vaisseaux du cerveau et parfois aussi au niveau de la vascularisation abdominale profonde.
Mais à ce stade-ci, Dr Couache, est-ce que le lien entre ces effets-là et le vaccin AstraZeneca, il est encore soupçonné ou il est avéré?
Ben, il est de plus en plus réel dans le sens où les personnes qui ont été vaccinées, on a réussi à trouver ces auto-anticorps-là qu'on n'a pas trouvé chez d'autres personnes non vaccinées. Donc, cette association-là devient de plus en plus forte. Mais la seule chose, c'est que elle demeure quand même hyper rare. Là, on parlait au départ d'une incidence de 1 sur 1 million. La semaine passée, on est tombé à 1 sur 100 000. Dans certains pays, à 1 sur 24 000. Et c'est là où on s'est dit, bon, on n'en a pas encore au Canada, mais est-ce qu'on va attendre d'en avoir avant de dire, écoutez, on va prendre une pause et permettre à Santé Canada de faire son enquête? C'est là où on s'est dit, bon, on a au Canada surtout des vaccins Pfizer et Moderna. AstraZeneca, c'était une petite portion. On avait donc le luxe, je vous dirais, de mettre le vaccin sur pause juste pour les moins de 55 ans, laisser à Santé Canada le temps de faire son enquête, d'émettre des termes et conditions sur l'utilisation du vaccin auprès de la compagnie. Puis on réévaluera là, dans quelques semaines une fois qu'on aura davantage de données.
Docteur Couache, je suis convaincu qu'il y a des gens actuellement qui nous écoutent qui ont plus de 55 ans et qui disent non, attends un peu, j'ai plus de 55 ans, mais je le veux pas moi non plus parce que je crains les complications. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là?
Ben, je voudrais qu'en bout de ligne, la décision de vaccination, c'est une décision personnelle. C'est que la raison pour laquelle, pour les plus de 55 ans, on l'a laissé, en fait 55 ans et plus, c'est que, un, il y a à peu près pas de cas dans ce groupe d'âge-là, et que, deux, quand on regarde le risque d'attendre un peu plus longtemps avant d'avoir le vaccin, quand il y a plein de COVID autour de nous, le risque de complications, hospitalisation, décès, est beaucoup plus important quand on vieillit. C'est certainement après l'âge de 60 ans. Et donc, chaque personne devra alors décider, si elle n'est pas vaccinée tout de suite puis qu'elle attend genre 3-4 semaines pour avoir le vaccin ARN messager de Pfizer ou de Moderna, est-ce que ce risque-là d'attendre 4 semaines de plus est un risque qui est gérable pour la personne? Donc, c'est toujours un consentement éclairé. On force pas le vaccin AstraZeneca sur personne. On est tout à fait transparent avec les données. Mais après ça, c'est le risque de dire j'attends plus longtemps avant d'être vacciné alors que les variants sont là, alors que les complications sont beaucoup plus importantes quand on vieillit. Après ça, c'est à nous de décider.
On comprend, Dr. Kouach, qu'on en apprend tous les jours. Là, c'est encore récent. Bon, et le virus, et encore plus le vaccin. En même temps, je peux pas m'empêcher de m'inquiéter sur l'incidence que ça a sur l'adhésion des gens, d'avoir des changements de cap comme ça. Il y a même des études qui démontrent que lorsqu'il y a un manque de cohérence, par exemple, sur les mesures sanitaires, les gens adhèrent moins, ça les rend insécures, anxieux. Or, là, c'est la même chose pour la vaccination, parce qu'il y a quelques semaines, on disait, AstraZeneca, c'est non pour les 65 ans et plus. Après ça, c'était correct. Là, c'est les 55 ans et moins. On fait comment pour contrer ce sentiment-là là, d'insécurité que ça peut engendrer dans la population?
Ouais, je le comprends tout à fait. Puis je vous dirais que si j'étais pas assise dans le comité, moi aussi j'en perdrais mon latin. Là. En fait, j'en perds même mon latin en étant sur le comité. Mais tu sais, les données sont évolutives. Hein. Quand on a regardé ce vaccin-là au départ, les données qui ont été soumises par la compagnie à Santé Canada et les mêmes qu'ils ont soumis au FDA américain n'ont pas été considérées suffisamment probantes par les Américains pour qu'ils donnent une autorisation. Ce vaccin-là n'est pas encore autorisé aux États-Unis. Il le sera probablement sur la base de l'étude de phase 3 là, qui a été faite avec plus de 65 ans et plus. Nous, quand Santé Canada a regardé les données, ils ont dit, écoutez, nous, on a suffisamment de certitudes, même s'il y a eu des complications dans le décours de l'étude, parce qu'il y avait eu des demi-doses, des doses complètes, enfin bref, toutes sortes de données. Ils ont dit, on pense que le bénéfice est quand même là, donc on l'autorise. Nous, au Comité consultatif national de l'immunisation au niveau fédéral, on a dit, c'est vrai que chez les moins de 65 ans, on a des bonnes données d'efficacité, mais chez les 65 ans et plus, il y a tellement peu de personnes qu'on n'est pas capable de savoir si ça marche ou ça marche pas. Et donc, à l'époque, on avait dit, soyons prudents, puis arrêtons à 65 ans. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu des données de vraie vie là, qui sont sorties, d'efficacité de terrain, qui démontraient que chez les 70-80 ans, même avec des conditions chroniques, ça protégeait à 80% contre les hospitalisations et les décès. Donc là, on a levé le maximum en termes d'âge. Et là, tout d'un coup, les caillots surviennent. Et donc, on doit se dire, faisons preuve de prudence et retirons le temps qu'on soit capable d'en savoir davantage. Je comprends que le monde trouve qu'on est peut-être en train de virer fou, mais je vous dirais que d'un point de vue transparence, moi j'aime mieux vous dire ce que je sais et ce que je sais pas pour qu'après ça, on nous blâme pas de dire, ah, vous pensiez qu'on était trop nono puis vous n'avez pas voulu nous partager vos craintes. Mais tu sais, ce que je dis à tout le monde, c'est présentement, là, avec ce que je sais, si j'avais décidé de pas le dire parce que le risque est pas encore arrivé au Canada puis que c'est ma fille qui reçoit le vaccin et qu'elle a une thrombose, écoute, je serais jamais capable de me pardonner à moi-même et j'imagine que les autres Québécois seraient pas capables non plus. Donc c'est dans cette approche-là qu'on est complètement transparent puis qu'on dit écoutez, on met une pause, on permet à Santé Canada de faire son enquête au complet puis ensuite on verra comment faire mais parce que les données évoluent tout le temps, c'est impossible de savoir ce qui s'en vient demain. Quand je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu, avoir su, tu sais, est-ce que j'aurais fait ça autrement? Je peux même pas vous dire que j'aurais fait ça autrement. On n'avait pas les données à l'époque, c'est juste que ça change à tous les jours. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise depuis le début de la pandémie, c'est ça, là.
Peut-être juste une précision, Dr. Kouach, parce que j'ai en tête, là, le premier ministre Trudeau, il y a quelques semaines, lorsqu'on a vu la suspension d'AstraZeneca en Europe, parlait de mauvaise batch. C'est le terme qu'il employait.
Oui.
Est-ce qu'il y a encore cette optique-là? Où on se rend compte que c'est le vaccin en général, là, ou non, pas un lot en particulier ou un autre?
Non, c'est une bonne question. À l'époque, on se demandait effectivement si c'était pas une histoire de lot, puis finalement, ça a pas l'air d'être ça du tout. Là, ça a l'air d'être c'est tous les vaccins AstraZeneca et Covishield, en fait, sont à risque de donner cette complication-là.
Est-ce qu'on doit renoncer à l'objectif qui m'apparaît un peu être un objectif politique ici au Québec de vacciner avec une première dose tous les Québécois qu'ils souhaitent d'ici au 24 juin? Est-ce que ça remet cette espèce d'échéance-là en question, là, selon votre vision globale de la patente, là?
Ben, écoutez, quand on a regardé ça au niveau fédéral avec les arrivées de vaccins prévus, de ne pas utiliser l'AstraZeneca chez les moins de 55 ans, ça retardait la fin de la patente, comme vous dites, de 2 à 3 semaines. Est-ce qu'au Québec, l'impact va être le même? Je peux pas vous le dire. Je suis pas impliquée dans le déploiement du programme de vaccination. Je vous dirais que au-delà de AstraZeneca, il faut juste s'assurer que les plages sont ouvertes, que les gens se présentent et qu'on est capable de maintenir la cadence. C'est sûr que de pas avoir AstraZeneca, ça risque de retarder un petit peu. De combien de temps exactement au Québec? Je pense qu'il faudrait plus demander à M. Paris, là, mais moi, j'ai pas les données précises, mais probablement qu'il va y avoir un petit retard de 2 à 3 semaines.
Peut-être avant de vous laisser, Dr Quash, là, peut-être décrire aux gens c'est quoi les effets secondaires qui méritent qu'on leur porte attention. C'est quelqu'un qui s'évanouit 48 heures après l'injection, sais-tu? Est-ce qu'il faut se préoccuper de ça? Parce que là, il y a peut-être aussi l'effet psychologique qui va embarquer là-dessus. Ouais. Là, de quoi les gens devraient s'inquiéter après avoir reçu un vaccin? Là?
Bonne question. Alors, si vous avez reçu le vaccin depuis 3 semaines puis que vous êtes en forme, vous oubliez ça, ça y est, c'est fini, là. Tout est beau. Les thromboses qu'on a retrouvées en Europe survenaient entre le jour 4 et le jour 16 après la vaccination. Et donc, ce qu'on dit aux gens, c'est de surveiller. Si vous avez un mal de tête épouvantable qui s'en va pas avec votre Advil puis votre Tylenol habituel, si vous avez des vertiges, si vous avez de la douleur au niveau de la poitrine ou vous avez de la difficulté à respirer, vous êtes plus essoufflé, vous avez des douleurs abdominales qui sont très importantes, consultez. Je vous dirais qu'en de façon générale, là, ces symptômes-là devraient nous amener à consulter là, de toute façon quand des vertiges importants, mal de tête important. Et à ce moment-là, à l'hôpital, c'est facile, on fait une formule sanguine. Si vos plaquettes sont normales, on sait que c'est pas ça. Donc, il y a un moyen de savoir relativement facilement si c'est cette complication-là ou pas. Si nos plaquettes sont au-dessus de 150 000, tout est beau. Si les plaquettes sont en bas de 150 000, à ce moment-là, il y a d'autres étapes à suivre, là, mais c'est des symptômes qui sont assez parlants, je vous dirais, là, pour que les gens, de façon générale, se présentent. Là, c'est pas le petit mal de tête de fin de journée quand on vous joue du marteau-piqueur sur la tête. C'est vraiment un mal de tête important qui survient entre le 4e et le 16e jour, à peu près, post-vaccination.
Dr Quash, à la lumière de ce que vous voyez là, comme données en ce moment, vous vous situez où dans le débat, à savoir, est-ce qu'on devrait retirer certains allègements? Est-ce qu'on devrait garder le cap, bon, comme le gouvernement semble vouloir le faire, mais en même temps, il y a le Collège des médecins qui appelle à la prudence lors des infirmières. Qu'est-ce que vous en pensez là, avec la dynamique actuelle, le bilan actuel?
Bien, je vous dirais que plus on a de contacts, plus les mesures sont assouplies, plus on va avoir de cas. Là, ça, c'est une relation directe. Là, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, bon, à Montréal, on est encore en zone rouge. Là, on ne voit à peu près rien. Mais ailleurs, en région où vous êtes déjà en zone orange, puis où les restos ont rouvert, où il y a des rencontres face à face, pas de masque, c'est là où il y a un risque de transmission, surtout avec le variant qui est beaucoup plus capable de se transmettre plus loin, probablement, et avec un contact moins prolongé, c'est là où on risque de voir quelque chose. Maintenant, je pense que là où le gouvernement est coincé, c'est entre on veut le moins de cas possible, mais en même temps, il faut quand même permettre aux gens de survivre dans tout ça, parce que ça fait un an qu'on est attaché. Je suis bien heureuse de ne pas avoir à prendre la décision. D'un point de vue purement décompte de cas, là, c'est sûr que plus on se voit, plus il y a de la transmission, mais tout ce qu'on espère, c'est que ça mènera pas à des hospitalisations et à des décès parce que nos personnes âgées sont déjà vaccinées. Là, il va juste falloir garder un œil sur les plus jeunes. Si on se met à voir que les 40 à 60 ans se mettent à être hospitalisés et aller aux soins intensifs, il va falloir revenir en arrière. Personne ne le veut, là, mais je pense que le message, c'est si ça continue à monter, ils n'auront pas le choix. Et entre-temps, assurons-nous de porter notre masque, de garder nos distances et de limiter le plus possible les rencontres à l'intérieur, pas de masque. Sinon, ouvrez les fenêtres d'aplomb, là, puis mangez sur la terrasse s'il fait assez beau, mais c'est l'intérieur qui est problématique.
Mais en terminant, je veux pas créer une chicane entre vous et le docteur Arruda, là, mais qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration ce matin dans la presse qui dit même si j'ai 2000 cas au Québec, mais qu'on n'a pas d'hospitalisation ou de décès de façon importante, on peut vivre avec. C'est quoi votre position là-dessus?
Ben, je comprends ce qu'il dit. La seule chose, c'est que si on a 2000 cas au Québec aujourd'hui, il faut quand même se donner une semaine pour voir si ça va mener à des hospitalisations et des décès. Comme je dis, là, je voudrais vraiment pas être dans ses chaussures pour prendre cette décision-là parce que il y a tellement d'éléments à regarder au-delà du nombre de cas. Mais c'est clair que si on a des hospitalisations et des décès, il va falloir revenir en arrière. La seule chose, c'est qu'il va peut-être être un peu trop tard. T'sais, quand on regarde ce qui se passe en Ontario présentement, où il y a eu beaucoup d'assouplissement des mesures alors que les variants étaient partout, ben ça donne ce que ça donne. Puis en même temps, moi aussi, je veux comme n'importe qui pouvoir retourner au restaurant. Là, tout est encore fermé. Là, on n'en peut plus. Puis je le comprends tout à fait, là, mais c'est le risque à courir, mettons.
Docteur Kouach, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça a été fort intéressant. Merci d'avoir pris quelques minutes. Merci.
Merci, bonne journée.
Merci.
Docteur Caroline Kouach, donc microbiologiste, infectiologue au CHU Sainte-Justine, présidente du Comité consultatif national de l'immunisation. Donc, concernant le vaccin AstraZeneca.
Je disais qu'en y écrivant ce matin pour demander l'entrevue, ouais. Je me sentais inadéquat. Parce que
non, mais elle est incroyablement bonne. Elle est incroyablement bonne. Oh, ils sont tous bons, là, mais je veux dire, avec Dr. Kouach, il y a vraiment une capacité à bien vulgariser, à être clair, à synthétiser. Ouais. C'est
puis tu vois qu'elle comprend l'enjeu aussi, l'enjeu de santé mentale, elle comprend très bien aussi. Elle aussi est tannée, puis elle comprend très, très bien ça aussi. Puis c'est là que tu vois que c'est pas facile. Les décisions que le Dr. Ouda, qui est pas parfait, là, mais les décisions que lui a à prendre, sont pas nécessairement faciles actuellement. Donc, 13h, point de presse, Dr. Arruda.
Tout le monde est tanné.
Et de M. Legault.
Depuis un bout.
Tout le monde est tanné.
Si vous pensez que les gens qui sont plus modérés sur les mesures sont pas tannés, détrompez-vous, s'il vous plaît.
Non, mais c'est juste que, je veux dire, je comprends que c'est pas parce qu'on est tanné qu'il faut tout abandonner, mais ça reste quand même une donnée, ça. L'aspect santé mentale, c'est une donnée qui doit être considérée.
Mais c'est une donnée politique, c'est pas une donnée de santé.
Non, c'est une donnée de santé. La santé publique doit analyser ça. La santé mentale, ça fait partie de la santé en général.
La dépression, la violence.
C'est ça.
J'en parlais un peu plus tôt, ça nous ramène... J'ai l'impression, moi, en parlant, en écoutant des intervenants, en les lisant, puis en parlant des gens en coulisses, j'ai vraiment l'impression de retrouver un certain discours qu'on avait eu à la fin de la première vague, lorsque le gouvernement devait justifier le retour en classe des élèves dans toutes les écoles, sauf dans la grande région de Montréal, et qu'on nous parlait du fameux concept de la balance des inconvénients.
Oui, c'est ça.
Donc, balance des inconvénients, c'est de tolérer un certain risque par rapport à la COVID, en sachant que les conséquences de trop agir là, ou de trop confiner peuvent être plus graves, plus importantes que le virus lui-même. Et ça, c'est pas banaliser le virus. Là.
Pas du tout. Absolument pas.
Mais c'est de comprendre qu'en ce moment, il y a des incidences partout dans la société.
C'est ça.
Et que si on pense, ça j'insiste là-dessus, là, parce qu'on se fait des fois attaquer des deux bords, là. Si on pense que le système hospitalier peut tenir le coup, il n'y a pas question ici de dire on va laisser ça déborder puis on va vivre avec le virus, c'est pas ça qu'on dit.
Non.
Mais si on pense que la vaccination et des personnes les plus vulnérables et des employés du système de santé, parce que ça, c'est une donnée qu'on rappelle peut-être pas assez souvent. Une des problématiques qu'on a eues, le délestage et tout ça, c'est qu'il y avait tellement, ça a dépassé les 6000 personnes du milieu de la santé qui étaient retirées du travail de façon préventive ou pour se soigner de la COVID-19. C'était un des problèmes du système. Or, si ces gens-là vaccinés pognent moins la COVID-19, bref, si ces ingrédients-là font en sorte que le système hospitalier peut tenir le coup, ben faut le garder en tête aussi. Là, c'est une nouvelle donne, ça.
C'est que la job du directeur de la santé publique, c'est de prendre tous ces éléments-là, puis il peut pas dire, OK, hey, là, les intensivistes là, sont tout en panique, puis sont brûlés, puis on retourne en rouge. Il peut pas faire ça. Comme il peut pas non plus dire, ben je considère pas ça du tout. Lui, il faut qu'il prenne ce que les intensivistes disent, le Collège des médecins, mais qu'il considère aussi tous les autres impacts sur le reste de la santé, puis ça inclut la santé mentale. C'est ça la job du docteur Arruda, là. C'est ça la job d'un médecin de santé publique.